Dans le chapitre 5. Ce n'est pas des histoires qu'on lit régulièrement ou qu'on fait souvent référence, mais je pense qu'il y a des perles dans ces textes-là, dans ces histoires qui nous sont racontées ou que Dieu nous a gardées, nous a conservées pour notre enseignement. Et on est toujours dans cette étude des héros de l'ombre. Alors, on va voir différents... on pourrait dire deux personnes particulièrement ce soir, peut-être même trois, tout dépendamment, qui sont dans l'ombre en quelque sorte de Élisée, qui est le prophète principal qui constitue la trame de l'histoire qu'on va lire. Alors Élisée, le personnage principal, avec tous les autres qui se greffent autour, mais on va voir comment est-ce que Dieu finalement se glorifie. Et même on va voir Élisée ce soir, qui lui-même désire à un certain moment donné de rester dans l'ombre, et on verra pourquoi tantôt, pourquoi il va avoir décidé de ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse mettre cette lecture, ce temps qu'on va avoir ensemble entre les mains de Dieu, et après ça, on va lire dans 2 Rois 5. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, premièrement, pour ta parole. Tu es un Dieu vivant, tu es le Dieu des vivants, puis on veut te louer, Dieu, de cette opportunité que l'on a que de pouvoir se réunir ce soir, d'ouvrir ta parole, de lire cette histoire que tu nous as gardée et qui est utile, Seigneur, pour notre qui nous sert d'exemple. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs, on veut ouvrir toute notre attention à ce que tu as à nous dire et on veut être enseigné de toi. On veut que nos vies ressemblent de plus en plus à ce que tu veux de nous et on te prie qu'avec ton esprit, tu puisses venir mettre ton doigt là où tu veux, qu'on puisse justement nous transformer. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen. Alors, Guéhazi, on avait commencé la semaine passée en regardant cet homme qui est le serviteur de Élisée. Élisée passait souvent par Sunem. Il y avait une femme sunamite qui habitait dans cette ville qui a été très avenante, qui a été très hospitalière envers Élisée, et qui lui avait fait bâtir une chambre haute, un toit, quelques murs, quelque chose de bien simple pour accueillir cet homme-là. Et on a vu que Dieu lui a donné, lui a accordé pour le bien qu'elle faisait envers cet homme-là. Élisée lui disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Quel bien est-ce qu'on peut te retourner? Puis elle demandait rien. Je vis au milieu de mon peuple, je suis bien, je suis content. Puis Guéhazi a dit, mais cette dame-là n'a pas d'enfant et son mari se fait vieux. Alors, Élisée lui a dit, ben à la même période l'année prochaine, tu vas avoir un enfant dans tes bras. Ce qui est arrivé. Quelque temps après, je vais juste résumer l'histoire sans qu'on revienne sur tous les détails. Quelque temps après, l'enfant qui était assez âgé, qui allait rejoindre son père, les travailleurs, commençait à se plaindre de maux de tête. Il est revenu à sa mère. Il a pris l'enfant. La mère a pris l'enfant sur ses genoux jusqu'à sa mort. Et là, la mère est partie. Elle a fait ni un ni deux, elle a croisé son mari, tout est sous contrôle, elle a croisé Guéhazi qui venait à sa rencontre, tout est sous contrôle, mais la personne qu'elle voulait rencontrer, c'était Élisée, pour lui dire, je t'avais rien demandé, tu m'as donné un fils, puis là, il est mort. Et évidemment, elle était remplie d'amertume, que le texte nous dit, et là, on a vu par la suite, Guéhazi qui s'est rendu jusqu'au lieu où l'enfant était couché, qui a mis le bâton sur le visage, etc. Ça n'a pas fonctionné. Et là, on voit finalement Élisée qui se rend au chevet de cet enfant-là et que Dieu ressuscite par la foi d'Élisée, de cet homme-là qui était là. Maintenant, Guéhazi est toujours dans le portrait. Et là, on va faire un saut dans une autre... coin de la géographie, mais qui finalement va nous ramener dans la cour d'Élisée et de Guéhazi. Dans 2 Rois, chapitre 5, on va parler de Naaman. Alors, j'aimerais qu'on lise les versets 1 à 19 pour qu'on puisse avoir l'histoire de Naaman. Et puis après ça, on regardera ensemble qu'est-ce que Dieu nous donne comme instruction sur ce texte-là. On va continuer un petit peu plus tard par après aussi les versets 19 à 27, mais commençons 1 à 19. Est-ce qu'il y a deux volontaires qui voudraient lire ça? Mettons 1 à 10, puis un autre 11 à 19. Deux volontaires. OK, Renal, 1 à 10, puis deuxième, David, 11 à 19. OK, une belle histoire, hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'était un beau récit, je trouve, quelque chose de bien intéressant. Et j'ai quelques questions pour vous, parce que je comprends pas tout de tout ce qu'on peut voir qui est là. Et puis ensemble, on peut regarder ça ensemble. Mais premièrement, c'est qui Naaman? Qu'est-ce qu'on apprend de lui? Chef de l'armée du roi, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on connaît de lui? C'est un homme fort, vaillant. Il est lépreux aussi. Ah, comment? Il jouit de la faveur de son maître. Pourquoi? Ça, c'est étrange, hein? Ça veut dire quoi, ça? Il y a les Syriens. OK, alors le roi appréciait Naaman parce que finalement il était efficace, c'était un bon chef d'armée. Mais Dieu avait donné à cet homme-là le pouvoir dans un sens parce qu'il dit car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Alors c'est intéressant de voir que Dieu il est au contrôle de quoi finalement? Mais de tout. Il a donné la capacité à cet homme-là d'avoir une bonne intervention militaire, ou du moins que Dieu lui a donné la possibilité d'intervenir et que Dieu a agi à travers cet homme-là. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle des rois, est au contrôle des gouvernements, est au contrôle de tout ce qui est là. On aurait pu lire Romains 13, mais toute autorité a été placé par Dieu. Est-ce que Dieu endosse tout mauvais coup, évidemment, que les gouvernements ou que les rois font? Évidemment que non. Mais c'est quand même Dieu qui, ultimement, est souverain sur les souverains de notre terre. Souvenez-vous qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate? Quand que Pilate a dit, « Sais-tu pas que j'ai autorité, tu sais, que je pourrais faire ci ou ça? » Souvenez-vous qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ça. Le pouvoir que tu as, c'est parce que tu l'as reçu d'en haut. Alors, Dieu est au contrôle de toute autorité, de toute forme de gouverneur ou de gouvernement, de roi. Et cet homme-là, Naaman, ben, ça dit, le texte dit que c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. On pourrait lire d'autres textes sans aller nécessairement beaucoup plus loin, que Dieu utilise même des peuples pour les fortifier dans un sens, même pour châtier son propre peuple, comme les Babyloniens. Alors, tout cela est encore au contrôle des mains de Dieu. Maintenant, Naaman, c'est cet homme-là, chef de l'armée du roi de Syrie. Il est bien apprécié du roi de la Syrie. C'est un homme fort, vaillant et aussi lépreux. Les Syriens étaient sortis en troupes. Ils avaient mené des campagnes à gauche et à droite, ils étaient puissants. Et dans leur campagne, ils ont ramené une petite fille d'Israël qui était devenue servante de la femme de Naaman. Elle travaillait dans la maison à cet endroit-là. Comment trouvez-vous la foi de cette petite fille-là? Comment trouvez-vous l'intervention de cette petite fille-là? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là, là, de cette petite fille-là? Est-ce que c'est... Ben, tout le monde connaît Élisée, tout le monde sait bien que... Qu'est-ce que vous pensez de la petite fille? Elle était assez audacieuse. Je sais, là, parce que ça dit... Regardez le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman est allé dire à son maître, la petite fille que j'ai ramenée d'Israël a parlé de telle, telle manière, a dit telle, telle affaire. Et il avait fait plusieurs recherches pour aider Naaman. Hein? pour aller intervenir, pour faire des choses à gauche et à droite. Mais là, cette petite fille-là a dit, si il peut aller voir le prophète en Samarie, il le guérirait. Brianna. Oui. C'est ça. Alors, elle voulait, puis elle voulait du bien aussi à son maître. Elle voulait du bien. Le roi de Syrie, on va mettre en parallèle cette petite fille-là, puis le roi d'Israël, si vous voulez. On va juste continuer. À un moment donné, le roi de Syrie a dit, OK, rends-toi, verset 5, à Samarie, puis je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Alors, c'est le protocole, on envoie la délégation en Israël, je vais t'écrire une lettre. Et puis là, il est parti, puis prenant avec lui 10 talents d'argent, ce qui est vraiment beaucoup, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Et là, c'est des vêtements qui viennent de la cour du roi, là. Et il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant que cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Lui, il a ça, le roi d'Israël. Il a la lettre du roi de Syrie. Et là, c'est quoi sa réaction? Il saute sa coche. C'est quoi la réaction de ce roi-là en Israël? Il me prend pour qui? Il déchire ses vêtements. Il avait peur. Il a peur de quoi? C'est ça. Il déchire ce vêtement, puis il dit, qu'est-ce qu'il dit, vous souvenez-vous? Suis-tu Dieu, moi, pour donner la mort ou la vie? Qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit? Quelle a été sa première réaction? Est-ce que j'ai la capacité de faire ça? Ouais, non, je n'ai pas la capacité de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie du monde, une délégation avec, je peux rien faire? Et là, il a peur, et là, il finit que par dire, s'il m'envoie ces gens-là, c'est parce qu'il veut nous prendre au piège. Ouais. C'est ça, il va me demander de faire quelque chose que je ne suis pas capable de faire, et là, on est fait. Et le roi de Syrie est puissant, là. Oui, Renan. Ouais. Ouais. C'est quoi la différence entre la petite fille et le roi d'Israël? La foi? C'est quoi la différence entre la petite fille et le roi d'Israël? Comment? La petite fille, elle savait qu'il y avait un prophète qui pouvait intervenir en sa faveur. Le roi d'Israël, il est supposé d'être bien plugué. Il est supposé de bien connaître les relations qui se passent dans son pays. Il est supposé de connaître ce qui se passe. Puis, il lui vient pas à l'esprit qu'il y a un prophète en Israël, en Samarie plus particulièrement, qui pourrait intervenir. Cette petite fille-là le savait. Puis elle savait que s'il allait voir ce prophète-là, il pourrait le guérir. On voit le roi d'Israël qui est complètement déconnecté de l'œuvre divine, de l'œuvre de ce que Dieu peut faire, qui est complètement déconnecté du prophète qui pourrait lui apporter certainement du bien. Et cette petite fille-là qui avait entendu son témoignage, je ne sais pas de quelle façon, on ne connaît pas tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, mais ce que l'on voit, c'est qu'elle a suffisamment la foi pour dire, si mon maître allait voir ce prophète-là, elle s'est dit, fin du verset 3, le prophète le guérirait de sa lèpre. Il n'y a pas de peut-être. Ça vaudrait peut-être la peine de le guérirait de sa lèpre. Elle a cette foi-là, cette confiance-là, cette connaissance-là. On le revoit où, cette petite fille-là, après? On l'a déjà vue où? Hein? Un verset qu'on la voit dans les Écritures. Et pourtant, c'est un homme d'influence. C'est un homme qui est le bras droit dans un sens pratiquement du roi de Syrie, qui était une puissance de l'époque. Et cette petite fille-là a permis par sa parole, cette foi qu'elle avait envers l'œuvre de Dieu à travers le prophète, que son maître soit guéri finalement. Une petite fille qui avait confiance en Dieu. pourquoi le roi d'Israël a déchiré ses vêtements, mais on en a parlé tantôt. Il a peur, il est consterné, et qu'est-ce que Élisée fait quand il entend ça? Laisse-le venir. Pourquoi t'as déchiré ton manteau? C'est ça. Pourquoi t'as déchiré tes vêtements? Regardez verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi est-ce que tu as déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Il fallait que le roi d'Israël s'en souvienne lui aussi. Mais il dit, « Laisse-le venir à moi. » Et Naaman vient, et là, imaginez la délégation royale de Syrie. Là. Naaman, qui est l'homme, le chef de l'armée du roi de Syrie, qui arrive et qui s'en va vers la maison d'Élisée. Et là, Naaman arrive avec ses chevaux, son char, et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Et qu'est-ce qu'Élisée fait? Il est où le protocole? Hein? Il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de fanfare, puis Élisée, il ne sort même pas de sa maison. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui va faire ça, c'est Dieu. Tantôt, je disais, Élisée est comme le personnage principal. Bien là, on parle de Naaman, mais Élisée est le prophète que les Écritures sont en train de nous faire référence ici. Mais il sort même pas. C'est comme s'il décide lui-même de rester dans l'ombre, dans sa maison, et ne sort pas. C'est quoi la réaction de Naaman face à ça? Il est frustré. Il est en furie. Bien là, regardez verset 10. « Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Et là, verset 11, « Naaman y est irrité. Il s'en alla en disant, on peut l'imaginer un peu en train de marmonner, là. Il s'en va en train de parler, « Voici, je me disais, bien, il sortira vers moi, il va se présenter lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Il va faire une forme de cérémonie, une forme de pratique quelconque. Lui, il imaginait ça. Il avait déjà fait des campagnes pour essayer d'être guéri à gauche et à droite. Il a dû voir toutes sortes de simagrées et il sort même pas de sa maison. Il envoie dire par un messager, « Va-t'en te laver dans le Jourdain 7 fois. »« Va te laver, ça va partir. » Alors là, il se dit, il continue de se dire, verset 12, « Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? » Qu'est-ce qu'il y a en Israël qu'il y a de plus que ailleurs, que les grandes étendues qu'on peut connaître, qui sont bien plus reconnues pour certaines vertus thérapeutiques? Et pourquoi Naaman a dit « Va te laver dans le Jourdain? » Il a envoyé dire, va te laver dans le Jourdain. Pourquoi? J'ai dit quoi? Naaman, excusez, Élisée. Pourquoi Élisée a envoyé Naaman dans le Jourdain? Ça en est une bonne, celle-là, hein? OK. Il voulait montrer que c'est pas lui qui allait faire ce miracle-là. Qu'est-ce que t'as dit, Claude? Il voulait savoir s'il écouterait. Puis pourquoi le Jourdain? Le Jourdain, c'est un fleuve qui est reconnu comme étant sur le lieu d'Israël. Pour les gens, le Dieu du pays va se manifester dans le pays. Comprenez-vous comment est-ce qu'ils pouvaient réfléchir en pensant que le Dieu d'Israël, ben, il va délivrer dans le pays d'Israël? Parce que regardez ce qu'il dit, là. Il va le dire un petit peu plus tard. Verset 12, il parle des fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar. Le Parpar, il ne valent-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Pour lui, il se dit, m'envoie dans le Jourdain. M'envoie dans les eaux. Ben, pour lui, c'est évidemment les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et puis s'en retourner et parler avec fureur. pour Naaman, ça avait un symbole que d'aller se laver dans les eaux du Jourdain, qui était la terre d'Israël, où il y avait le Dieu d'Israël, mais tantôt sa foi envers le Dieu d'Israël va s'étendre beaucoup plus que juste sur ce territoire-là. Maintenant, c'est quoi l'effet que Élisée voulait créer? Oui, José. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est plus difficile des fois. C'est ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'était dur pour Naaman? Oui, vas-y, Renan. Oui. C'est ça? C'est ça? Oui. Quel effet Élisée voulait créer? Vas-y, continue, Danny. Oui, oui, c'est très bien. Élisée a voulu créer en Naaman, mais justement, un pas de foi, a voulu le confronter. Élisée a été très avare de paroles, d'interventions, de toutes sortes de choses, puis il l'a envoyé dire, va te laver cette fois dans le Jourdain. Mais regardez verset 13, les serviteurs s'approchent de Naaman pour essayer de lui parler, de l'encourager un peu, et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu pas fait? Tu sais, si t'avais demandé là de marcher sur de la braise ardente encore, si t'avais demandé, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande d'aller te laver cette fois dans le Jourdain. Est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce, comme on dit tantôt, c'est facile, là? Mais fais-le! Ah oui, ben c'est bon, on se croit et vit aussi, mais croit et obéit, c'est ça, absolument. Alors là, il dit combien plus dois-tu faire ce qui t'a dit? Lave-toi, puis tu seras pur. Alors, Naaman, bien encouragé par ses serviteurs qui sont près de lui, et descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une peau de bébé. Hein? Il est redevenu une peau fraîche, une peau d'un jeune homme, que ça dit, d'un enfant, et il était pur. Dieu venait de guérir cet homme-là, et Élisée avait envoyé dire par un messager. Élisée a manifesté très peu de participation pour que cet homme-là puisse vraiment être conscient que c'est pas un homme, que c'est pas une magie, que c'est pas une intervention X qui a fait que ça a fonctionné, que pour lui c'était tellement banal, tellement simple que ça se peut quasiment pas. Et pourtant, c'est ça qui est arrivé. Et Dieu l'a guéri. Et en fait, c'est ce qu'on voit qui s'est tourné dans le cœur de Naaman. Regardez verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Puis lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, qu'est-ce que compris Naaman? Là, Élisée est devant lui, là. Et là, ils peuvent avoir un entretien face à face. Qu'est-ce que Naaman dit à cet homme-là? C'est ça. Et même plus que ça. Regardez verset 15. Il retourne vers lui, et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Le Dieu de toute la terre, c'est celui qui est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Naaman venait de comprendre que l'Éternel est vivant, que Dieu d'Israël est le Dieu qu'il vient de le guérir, là. Et pour lui, c'est devenu très évident. Maintenant, Élisée veut faire un présent, Naaman veut faire un cadeau à Élisée. Puis Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Et là, Naaman est très riche, là. Il y a beaucoup de sacs avec lui qui l'accompagnent, d'argent, d'or, des manteaux précieux. Pourquoi il prend rien? Ouais. Ouais. C'est ça. Pour que la gloire revienne à Dieu, absolument. Élisée reconnaissait que c'était pas lui. Qu'est-ce qu'il peut accepter comme présent? Il a rien fait. Il est même pas sorti de sa maison. Il a envoyé un messager. Et en acceptant le présent, c'est en quelque sorte un échange qu'il venait de faire pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on peut donner en échange? Rien. On ne peut rien accepter en échange de la grâce de Dieu. Dieu vient de faire grâce à un homme. Dieu vient de guérir un homme. Puis Élisée veut garder cette grâce, ce don-là que Dieu vient donner à cet homme-là, le plus pur possible en disant, je ne mettrai pas une valeur à ce que tu viens de vivre. Je ne mettrai pas une valeur en termes d'argent que je peux accueillir pour dire, OK, c'est ça que ça valait ce que Dieu vient de faire pour toi. La grâce de Dieu. Il n'en a pas accepté. La seule richesse que Élie a, c'est ce manteau qu'il a reçu en héritage d'un autre prophète qui commençait déjà à vieillir, j'imagine, avec le temps. Élisée est un homme qui vivait dans une simplicité puis en dépendance de Dieu. Il n'a accepté aucun don de la part de Naaman. Il dit, verset 16, Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman, il insiste pour qu'il puisse accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, verset 17, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, et n'en offrira qu'à l'Éternel. » Je pose une question... où on ne peut pas juger le cœur, mais je pose une question pour voir comment est-ce que vous voyez ce que les Écritures nous disent. Est-ce qu'on va voir Naaman au ciel? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous croyez, pourquoi tu crois, s'il y en a d'autres qui pensent que oui, pourquoi est-ce que vous croiriez qu'on verrait Naaman au ciel? Hein? Il le confesse. Je veux avoir ma part en Israël. Je veux être ici, je veux abandonner, et ce matin je le citais là, dans Thessaloniciens, abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant, servir l'Éternel. C'est la repentance. Abandonner son ancienne vie, et c'était beaucoup, là. C'était beaucoup de dire, les dieux de la Syrie, les idoles de la Syrie, c'est fini pour moi. Maintenant, mon Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est quelque chose, hein? Et c'est le chef de l'armée de Syrie. Tout ça grâce à une petite fille qui, à un moment donné, a osé parler. Hein? Puis qui est venue. Puis grâce à quelque sorte, à un prophète qui n'est même pas sorti de sa chambre, qui a envoyé un serviteur. Et puis finalement, ultimement, tout ça grâce à Dieu qui a guéri cet homme-là. Dieu a révélé qui il était. Il a montré qui il était. Et je crois aussi que Naaman est un on va le croiser au ciel. Et il a déjà une conscience par rapport à sa vie. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui. Alors, il est en train de dire, et regardez verset 18, « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner. » Et il n'est pas en train de demander à un homme de le pardonner. Hein? Il n'est pas en train de demander, « Élisée, pardonne-moi. » où il est en train de dire que l'Éternel me pardonne, là, parce que quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, ben, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Et Élisée lui dit quoi? Va en paix. Élisée a refusé un don de Naaman. Guéhazi, on imagine qu'il doit être dans le portrait. Ben, on le sait qu'il était dans le portrait parce que la suite du texte va le dire. Lui, il a vu tout cela, là. Il a vu, est-ce que c'était même lui, le serviteur, qui est allé dire à Naaman? Ben, peut-être. Le texte ne le dit pas explicitement, mais Élisée a envoyé un serviteur, peut-être Guéhazi. Mais Guéhazi, il est dans le portrait, là. On va continuer de lire 19 à 27, que je vais lire. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Guéhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Guéhazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consent à prendre deux talents. » Il le pressa et serra deux talents d'argent dans deux sacs, donnant deux habits de rechange, et il les fit porter devant Guéhazi par deux serviteurs, deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Guéhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Guéhazi? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent ou de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. » Et Guéhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Eh oui, c'est triste. C'est quoi que Guéhazi n'avait pas compris? Ou peut-être qu'on peut poser une autre question avant. Qu'est-ce qui l'a motivé à agir de la sorte? La richesse? L'orgueil? Je ne suis pas pour laisser ça aller. Il a les poches pleines! Puis il veut les donner! Hein? Ben oui, une belle opportunité! Et là, il se dit, attends un petit peu, là. Je vais courir après, puis je vais m'y inventer de quoi, là, pour qu'il puisse donner un peu d'argent. Alors, il invente son scénario. Il y a deux fils de prophètes qui arrivent de la montagne d'Éphraïm. Et puis, mon maître m'envoie te dire que tu peux-tu donner un petit peu d'argent? C'était beaucoup un talent, là. Il en donne deux, dans deux sacs. C'était beaucoup d'argent. Et là, avec des vêtements, on comprend que c'était pas des poches de jute avec une corde, là, les vêtements qu'il devait donner, là. Alors, il donne ça à Guéhazi, puis il dit, vas-y, vas-y, puis il envoie même des serviteurs, et là, Guéhazi, OK, il amène ça dans sa maison, OK, vous pouvez vous en aller. Puis là, Guéhazi retourne vers Élisée, et là, qu'est-ce qu'Élisée lui dit? T'étais où? Tu faisais quoi? Je suis allé ni d'un côté ou ni d'un autre. Et là, si on est en train de faire le portrait de Guéhazi, là, il n'y a aucune scrupule face au péché. L'orgueil, l'appât du gain, d'avoir de l'argent, de recevoir un don avec ce que Dieu vient de donner comme grâce, de compter ce mensonge des enfants, des fils de prophètes qui sont en train de descendre, de dire à Élisée, ben, je suis allé nulle part. Puis Élisée lui dit finalement, tu me prends pour qui, là? Tu penses-tu que j'étais dans la lune quand que j'ai vu Naaman descendre de son char pour te rencontrer? Je l'ai vu. Et Naaman, Élisée savait très bien que ce que il y a beaucoup de personnages là-dedans, j'espère que je vous perds pas, là. Élisée a compris que Guéhazi allait solliciter des biens à Naaman. Et la conséquence... Oui, vas-y, Danny. L'Éternel est vivant. Prends Dieu à témoin. Ben oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Géasi, où était sa foi? Il n'en avait pas. Ses œuvres montrent bien qu'il avait une foi morte. Et quelle tristesse qu'un homme comme Géasi, qui a pu voir des miracles, qui a pu entendre des choses particulières, de voir la vie d'un homme comme Élisée, puis de ne pas avoir son cœur touché de la sorte, puis d'être encore aussi attiré et alimenté par le péché, par le vice. Comparativement à un homme comme Naaman, qui est un homme d'un passé très mondain ou idolâtre, et qui vient et qui se repent. Son cœur est touché, sa vie est transformée. Géasi, pendant un temps, lui, sa vie semble en règle, mais finit que par se révéler de sa foi qui est réellement morte, absente, et qui... C'est ça. Je suis convaincu que Géasi, quand il est allé porter le bâton, je pense que Dieu accueillait pas l'intervention, n'endossait pas l'intervention de cet homme-là, connaissant très bien son cœur et ce qu'elle laisse révéler par la suite aussi. Oui, je le sens. Puis, est-ce que la postérité de Géasi s'est éteinte aussi à un moment donné? C'est une autre chose possible aussi, là, mais il y a encore la lèpre, ou qui existe encore aujourd'hui. Tu disais quoi comme statistique? 1 sur 100 000. Ben, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup. C'est ça. Mais la lèpre dans les Écritures est vraiment le symbole du péché qui colle à la peau, hein, d'une honte, d'une exclusion, par exemple, du peuple, ou ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament, ou ce qu'on voit encore présentement. Il y avait vraiment une identification aux lépreux qui doivent être à l'écart. OK, c'est ça que tu veux dire? Que Naaman... OK, je ne penserais pas que ce soit ça. Parce que la réaction qu'on voit de Naaman, c'est beaucoup plus... On imagine que Naaman ne se laissait pas nécessairement toucher. On voit qu'il y a un entourage Naaman aussi, là. On parle de ces gens qui sont auprès de lui. Même, il était auprès quand même du roi de Syrie. Donc, il devait y avoir une façon de faire. Et la lèpre aussi, dans les Écritures, englobe plusieurs maladies de peau. Il y en a qui sont très contagieuses, là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Naaman, est-ce qu'il y avait une contagion beaucoup moins élevée, il y a des gens qui l'entourent. Puis, comme je dis, par après, quand que Naaman, ben là, tu vas me dire, il n'était plus lépreux, là, mais Naaman, quand il revient voir Élisée, là, ils ont une rencontre face à face. Mais je ne croirais pas que c'était parce que Élisée ne voudrait pas attraper la lèpre, parce qu'il a envoyé son serviteur quand même. Ouais. D'une pratique dans leur coutume de... Eh bien, écoute, faudrait que je vérifie plus, savoir si ça peut être une éventualité. Mais c'est ça, il a envoyé... Mais j'allais dire quand même deux choses, mais je comprends ce que tu dis, Claude. J'allais dire, il y a quand même... Naaman, il dit... Élisée dit... Envoyez-moi là, Naaman. Il va voir qu'il y a un prophète en Israël, là. Alors, il a confiance, Élisée, il a confiance que Dieu va le guérir. Je crois que s'il est resté derrière, c'est vraiment pour montrer que c'est uniquement Dieu qui est intervenu et pas en faisant toutes sortes de choses. Et puis, il a envoyé le serviteur. Mais est-ce qu'il y avait une possibilité? Ben, je comprends ce que tu dis, là. Mais dans la loi, justement, il y avait, quand les gens étaient lépreux, ils étaient sortis du camp. Et particulièrement aussi quand ils étaient dans le désert, là, avec Moïse. Alors, si on ramène tout ça, ces histoires-là, il y avait un homme, Géasi, qui était dans l'ombre d'Élisée, qui avait un contexte, on pourrait dire comme ça, qui lui était favorable de voir, d'entendre des choses qui concernaient Dieu, et son cœur n'a pas été touché. On a vu, par exemple, une autre femme qui a été très hospitalière envers Élisée. On a vu une petite fille qui était par une simple parole, si mon maître pouvait se rendre en Samarie, le prophète le guérirait. On a un homme comme Naaman qui, lui, est habitué d'être exposé, d'avoir le protocole, d'avoir, et qui, là, il est pas content parce que Élisée, il sort même pas. Mais cet homme-là est habitué d'être exposé. Mais finalement, qui il s'humilie, il y va. Et dans toute cette trame-là, la gloire revient à qui? Elle revient à Dieu. Elle revient à Dieu, pas au prophète, pas à Naaman. Naaman rend gloire à Dieu. Cette petite fille-là avait la foi que ce prophète-là pouvait intervenir auprès de Dieu. Et cette dame-là, qui avait accueilli le prophète, aussi qui lui avait construit une maison, avait confiance que c'était un homme de Dieu et elle voulait l'accueillir aussi. Alors, on va conclure le texte là pour ce soir. On peut prendre d'autres commentaires juste en terminant, quelques commentaires. C'est ça. Oui. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et c'est Dieu qui a reconnu, exactement, qui l'a reconnu, le Dieu d'Israël. Et c'est intéressant de voir est-ce que cet homme-là, à un moment donné, a compris que l'honneur ou la victoire qu'il pouvait avoir obtenue, même dans sa vie passée, que c'était Dieu qui lui donnait, parce qu'on a au début du texte que finalement c'était par sa main que l'Éternel avait donné la victoire. Oui, Paul, puis après ça, je sais. C'est comme s'il est en train de dire, regarde, je vais me prosterner là, mais j'aimerais ça que ça soit clair tout de suite que c'est pas de cœur que je le fais. Là. Je le fais pas pour adorer, mais mécaniquement, je vais continuer de me prosterner parce que mon travail, c'est d'aider mon maître à se prosterner pour adorer son idole. Mon cœur, il sera plus. Mais je vais continuer de faire cette mécanique-là, si je peux dire. Changer de job. je peux pas dire mieux qu'Élisée, là. J'aurais pas ce front-là. Il y a dit « Vas en paix ». Ouais. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais j'apprécie de voir cet homme-là que tout de suite sa conscience lui dit « Regarde, je suis encore dans un contexte qui est difficile pour moi, dans lequel je vis. » Et tout de suite dans sa conscience, il parle à Élisée en disant « Veuille l'Éternel me pardonner que si je me prosterne encore dans une autre maison qui n'est pas la sienne, dans un autre temple, qu'il sache tout de suite que mon cœur n'y est pas. Là, que c'est quand je tiens la main de mon maître, ben je l'aide à se prosterner, mais moi, j'y suis pas, là. Serge, après ça, Richard. Ouais. Ouais. C'est ça, il doit y avoir un témoignage dans ce... Mais oui, absolument. Oui, absolument, oui. Oui, terriblement merveilleux. Oui, Richard. C'est ça. Oui. C'est ça. Avec des chandelles sur son gâteau, que. Ouais. C'est ça. Comme tu dis, ce maître-là revient dans la maison. La petite fille est là, là. Alors, ça devait être. C'est ça, effectivement. Il a dû se réjouir avec elle. On a rencontré le même Dieu. On connaît le même Dieu maintenant aussi. Prions en terminant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Parce que c'est toi qui es au contrôle de tout. Ta parole vient de nous le montrer encore. C'était par toi que cet homme, Naaman, pouvait offrir la victoire à la Syrie. C'était à cause de toi. C'est toi qui l'as guéri et t'as permis que cette petite fille, Seigneur, puisse témoigner de toi, Dieu. Et on voit ces personnages qui semblent insignifiants, qui semblent si petits, qui semblent Peut-être que même eux, dans des circonstances, ont perdu le focus de pourquoi est-ce qu'elle était déportée, pourquoi est-ce qu'elle était maintenant rendue servante, mais qu'elle avait encore confiance en toi. Seigneur, c'est l'attitude qu'on veut avoir aussi dans nos cœurs, que peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe les circonstances qui peuvent être négatives ou positives, on veut garder la foi en toi. On veut garder cette foi que tu es au contrôle de toutes choses. Et on veut te louer pour ta grâce, on veut te louer pour le pardon que tu accordes, pour ces guérisons que tu as accordées qui témoignent de qui tu es. Et le Dieu vivant, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es notre papa. Tu es ce Dieu qui a guéri Naaman, puis aujourd'hui, Dieu, on a ce privilège que de te connaître personnellement. On veut te dire merci pour ça. C'est en nom de ton fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.